Deuxième invité de ces matins du samedi sur France Culture, Jean Hatzfeld. Rebonjour, Jean
Hatzfeld. Rebonjour.
Pour votre livre Là où tout se tait, publié aux éditions Gallimard. Alors, Là où tout se tait, c'est le sixième livre que vous consacrez à la tragédie du génocide des Tutsis du Rwanda. Sixième, c'est cela ?
C'est cela.
Et vous revenez à chaque fois avec cette idée, vous aimez le temps, dites-vous, et vous nous en avez parlé dans une masterclass que nous avions réalisée pour France Culture il y a quelque temps. Vous aimez le temps, vous voulez réfléchir à ce temps, et ce temps nous sépare de plus en plus lointainement de ce génocide des Tutsis, et vous y retournez très régulièrement, un temps et un lieu, puisqu'il s'agit toujours de ce district de Nyamata.
Voilà. Donc j'avais pensé depuis le début, ça, je n'avais pas réfléchi à toute cette petite aventure au début, mais j'avais pensé qu'il n'y aurait qu'un lieu, que je n'avais pas besoin d'aller au nord et au sud, d'aller voir dans d'autres régions, etc.
Décrivez-nous Nyamata et où se situe.
Alors, c'est difficile un petit peu de décrire Nyamata parce qu'elle évolue beaucoup. Donc moi je l'ai vu village poussiéreux complètement cassé à la sortie du génocide en 97
à l'est du Rwanda.
À l'est du Rwanda, un peu sud-est de Kigali, une bourgade d'une région très aride, c'est même une région qui a été très peuplée de Tutsis parce que c'est là qu'on s'en débarrassait en 1959 ou 1960. On leur a demandé d'aller défricher cette région que personne n'avait voulu défricher auparavant. Beaucoup d'animaux sauvages à l'époque, etc. Et qui vit un véritable boom économique, comme beaucoup de petites villes, même comme Kigali d'ailleurs, au Rwanda, c'est assez spectaculaire. Quelquefois, on se croirait même dans Tintin en Amérique, parce qu'on voit des... Alors, il n'y a pas d'immeuble encore à Nyamata, mais il y a quand même une rue principale goudronnée, des lampadaires, des choses comme ça qui n'existaient pas. Il y a même l'eau, quelquefois, pas toujours. Donc moi, j'avais découvert une bourgade vraiment pauvre, affaissé, désespéré, où les gens avaient été rares, il y avait des troupeaux de vaches à la place de voitures, et je découvre maintenant une ville un petit peu, une bourgade assez vivante.
Et alors, attendez, pardon. Oui, allez-y.
Donc cette bourgade est au creux de collines, genre, il y en a 14, qui forment le district de Nyamata, et qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc, parce que ce sont les collines des paysans, des cultivateurs, ce sont les collines des tueries aussi. Elles sont bordées de montagnes, de hautes collines de forêts. Et en bas, plus en bas, il y a le Nyabarongo, qui est une espèce de fleuve un peu lymphatique, marécageux, donc ce sont des marécages qui sont aussi l'une des scènes principales des tueries de 1994.
Donc vous retournez régulièrement dans ce lieu parce que vous pensez qu'on peut raconter l'ensemble de ce qui s'est passé dans ce génocide des Tutsis du Rwanda depuis ce lieu, que justement ce lieu rassemble tout cela. Et à chaque fois, vous en changez la nature de votre interrogation. Vous changez la nature de votre interrogation en prenant des figures différentes. Évidemment, il y a eu les génocidaires, il y a eu les survivants, et puis là, vous vous attachez à la figure. Alors, c'est toujours un peu délicat de faire un parallélisme comme celui-ci, mais vous ne l'empêchez pas vous-même, Jean Hatzfeld, des justes de ceux qui étaient Hutus et qui, soit sont morts, soit ont survécu pour avoir protégé des Tutsis qui allaient être massacrés donc dans ce génocide. Ils ne sont pas si nombreux que cela à Nyamata.
Ils ne sont pas si nombreux que ça, ils sont une dizaine, et pas tous vivants. Ça a été long pour moi d'accepter l'idée de travailler avec eux. J'y pense depuis longtemps, parce qu'en 2003 déjà, il y avait un petit chapitre dans un livre qui s'appelait « Les Justes et de l'impossibilité de les voir ». Ce sont des personnages qui sont très rares, c'est très intéressant de savoir pourquoi ils sont rares. Ils sont rares d'abord parce qu'il y a eu une telle violence de tuerie que ça a empêché ce qui a pu se passer, par exemple, dans des pays européens pendant la Shoah, à des gens un peu de se réfléchir, de s'organiser, de se demander, de peut-être de créer un réseau, de trouver un chemin, etc.
Comme là, chez les protestants du Chambon-sur-Lignon, dont vous êtes originaire.
Voilà. Donc là, ça a été assez... Ils ont eu le temps, ils l'ont commencé en 42, ils ont eu jusqu'en 44, c'est 2 ans. Là, les tueries se déroulent en 7 semaines. En 7 semaines, on tue quasiment tout le monde, puisqu'on tue 51 000 Tutsis sur 58 000. Donc c'est... Dans l'histoire humaine, il n'y a pas eu, si on accepte le cas particulier d'Hiroshima, de
Nagasaki.
Nagasaki, il n'y a pas eu de violence aussi meurtrière en si peu de temps. Même la machine à tuerie nazie, fin août, octobre 42, qui était la plus efficace à cette période-là, n'est pas arrivée à tuer 800 000 ou 900 000 personnes. Et même la terreur soviétique, même Katyn, etc., personne n'est arrivé à tuer aussi vite, aussi violemment. Ça explique pourquoi il y a eu si peu de justes et de... Et puis l'autre chose qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est que ces personnes, paradoxalement, sont des personnes qui gênent tout le monde, qui se taisent, qui... Alors, beaucoup sont mortes, donc déjà, elles ne peuvent plus parler. Personne ne parle à leur place. Elles sont des personnes un petit peu maudites, ce qui est assez inimaginable pour des gens qui ont sauvé d'autres gens. Mais elles sont dans le camp Hutu, dans la communauté Hutu. Elles incarnent la trahison. Mmh. Donc c'est un peu un livre sur la trahison. Qu'est-ce que c'est que la trahison et à quel moment on a raison de trahir? Mais enfin, elles incarnent aussi le mensonge des tueurs quand ils disent, et ça c'est récurrent chez tous les grands tueurs, qu'ils ont été obligés, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Mmh. C'est symbolisé.
C'est un grand livre sur le mensonge. Tous vos livres d'ailleurs sont sur le mensonge.
Voilà, sur le mensonge. Et donc là, il y a
comment on continue à vivre en acceptant de mentir ou en se forçant à mentir, parce que sinon on ne pourrait plus être les uns après les autres. Dans votre livre là où tout se tait, on voit bien que dès qu'il y a une querelle, par exemple, qui commence, une querelle pour une haie, dit l'un d'entre eux, eh bien, on pourrait lui dire, mais est-ce que tu te souviens de que tu as tué ma sœur ou voilà. Et puis on se retient parce qu'on se dit, on peut pas dire ça. Voilà. Et donc, dans le coup, on vit avec ce mensonge en soi.
Voilà. Et donc là, il y a le deuxième mensonge donc des Hutus qui est, enfin, ils ne veulent pas voir ces compatriotes justes parce qu'ils ne veulent pas voir ce qu'eux auraient pu faire s'ils avaient voulu, parce qu'il y a eu quand même un choix de sauver ou de protéger ou de ne pas participer. Et puis il y a la gêne que suscite ces personnes remarquables et justes, même si c'est pas la même définition que Yad Vashem israélien, dans la communauté Tutsi, pour une raison qui est aussi touchante et complexe, qu'ils se méfient de cela aussi, c'est-à-dire qu'ils n'y croient pas. Ils portent un soupçon, mais un irréductible soupçon contre tout individu ou tout. Et ils pensent que... Alors, quelquefois, on dit, mais quand même, ce qu'a fait Joseph... Tu peux pas dire, Sylvie, tu peux pas dire, c'est pas formidable. Elle dit, s'il l'a fait, c'est bien. Mais il y a toujours ce « si il l'a fait, c'est bien ». Il y a un moment donné, Innocent Ruiz-Ilza qui dit, en fait, tu nous accuses d'être soupçonneux, mais il n'y a que les morts qui pourraient parler de ces justes. Parce qu'il n'y a que les morts qui pourraient être certains qu'ils ne les ont pas tués. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas dire que c'est vraiment vrai qu'ils ne les ont pas tués, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de gens qui ont sauvé et tué à la fois.
Ouais. On peut citer Espérance Karine Gagniret, que vous citez, qui est une dite Fifi, la fille de François Karine Gagniret, et qui est toutou, et donc son père a participé justement à ceux qui ont tenté de sauver des gens, il en est mort, et a dit « on parle jamais de papa dans les commémorations ». Alors ça, c'est aussi très intéressant parce qu'on découvre effectivement que ces gens n'ont pas la place que l'on a donnée, par exemple, au juste après la Shoah. Cette place, il a fallu du temps pour le faire, mais on l'a fait. Et là, ils n'ont pas leur place dans la commémoration. Ceux non. qui ont évité de tuer ou qui ont sauvé des Tutsis menacés de génocide.
Non, parce que alors pour deux raisons. Il y a une raison politique qui est que dans la définition du juste rwandais, la participation après le génocide est décisive. il faut participer à la réconciliation nationale, il faut parler, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas au lendemain de la Shoah. Quelqu'un peut avoir sauvé et se retirer de la politique et dire « moi, je ne participe pas à plus rien ». Il peut être considéré comme juste parmi les nations. Là, il faut participer. Là, il y a beaucoup de justes, enfin de gens sauvés qui n'ont pas voulu participer à cette entreprise de la réconciliation nationale et donc ils sont éliminés par l'État. Et puis les autres sont éliminés par la société. C'est-à-dire, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, par la société Tutsi comme Hutu, ce sont des gens gênants, ce sont des gens qui se taisent, ce sont des gens sur lesquels on porte encore des soupçons, ce sont des gens qui ont trahi, on ne les commémore pas.
Alors, il y a évidemment tout un tas d'entretiens qui sont toujours aussi extraordinaires, parce que vous arrivez à tirer de vos interlocuteurs et de vos interlocutrices des paroles formidables avec cette langue extraordinaire qui est la langue françaises du Rwanda. Par exemple, souvent, les Hutus possédant des épouses Tutsi payaient pour les dérober aux lames. Donc, parce qu'effectivement, il y a cette idée que, eh bien, on peut avoir aussi, dans des couples, tenter de sauver son épouse, et d'autres fois, non. Ou que son épouse Tutsi vous dise, par devant, de toute façon, mon sort est scellé, par exemple, Jean Hatzfeld.
Oui, il y a eu beaucoup de cas. Alors, si vous voulez, c'était pas symétrique. Une femme Hutu mariée à un mari Tutsi ne pouvait pas espérer le sauver. Mais dans le cas, d'un mari Hutu et d'une épouse Tutsi, c'était envisageable. Ça pouvait être envisageable soit en monnayant quelqu'un qui avait de l'argent, soit en monnayant par sa force de travail, en allant tuer, c'est le cas d'un des protagonistes du début, que je ne considère pas du tout comme un juge, je fais parler sur quelqu'un d'autre, mais, parce qu'il a fait quand même 12 ans de prison, mais qui a sauvé sa femme en allant tuer. Soit c'est le cas de la très belle histoire de Eustache et Edith.
Et Edith, extraordinaire.
Extraordinaire histoire d'amour.
En deux mots.
Eh bien voilà, c'est Eustache et le postier. Et le premier jour des tueries viennent chez lui, évidemment, sa femme, sa belle-sœur, des enfants. Et il se retrouve toute une famille de Tutsi, un homme et toute une famille de femmes et d'enfants Tutsi. Et au prix de...
Et lui, il est Hutu.
Il est Hutu.
Voilà.
Il est Hutu, on le sait, il ne va pas tuer. Il refuse d'aller tuer, ça on le sait.
Mais il est mort de trouille.
Il est mort de trouille, mais c'est normal qu'il soit mort de trouille parce que tous les jours, des gens passent devant sa maison. Il habite à Nyamata, il n'habite pas sur les collines. Il est postier. Et les gens passent en disant, on va faire la peau de ta femme, de tes enfants, et ça. Il y en a même qui passent, qui viennent, qui frappent à la porte, qui en prennent trois, qui font semblant de les tuer, qui reviennent pour demander de l'argent, etc., etc. Et puis, à côté de cette maison, il y a un trou. Il y a un trou qui est une fosse septique, en fait. Qui est une fosse septique où on enterrait, où on jetait les cadavres qui avaient des personnes qui avaient été tuées dans la journée. C'est-à-dire que tous les jours, on venait tuer dans des fosses septiques ou dans des fosses, des trous qui avaient été creusés pour autre chose. On venait se débarrasser des cadavres parce que les gens continuaient à vivre à Nyamata. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait trop de cadavres dans la rue. Savoir quand même, ils en ont tué 15 000 en 3 jours, donc c'était beaucoup. Et voilà, ce trou...
Cette fosse septique devient
un peu l'histoire, elle n'était pas prévue au départ, pardon.
Et ça, c'est toujours, effectivement, ce qui caractérise votre type d'enquête, c'est que vous vous laissez gagner par quelque chose qui est en train d'arriver, et vous vous dites, tiens, je n'avais pas vu ça, on va y aller. Alors, Jean Hatzfeld, on vous a quitté juste avant cette revue de presse des idées, alors que nous étions en train de parler de ce couple extraordinaire qui est Eustache et Edith, et qui disent l'un et l'autre la peur qui les a saisis, et peut-être aussi c'est cette peur qui a fait que pendant longtemps, alors que vous les croisiez, que vous les voyiez, Eustache, vous voyez, mais vous ne l'avez pas abordé et il ne vous a pas abordé. Comment se passe justement ce retour sûr qui est le propre de votre propre travail au Rwanda, Jean Hatzfeld?
Vous évoquiez au début de l'émission le temps. Et le temps, ce n'est pas seulement le temps qu'on prend pour travailler, c'est aussi le temps qui passe et qui modifie les gens. Les gens ne réagissent plus ou ne pensent plus et ne s'expriment plus de la même façon 10 ans après ou 20 ans après. Eustache, je le connais depuis le premier jour parce qu'il était postier. Il n'y avait qu'un téléphone public, j'allais le voir quand j'avais besoin de téléphoner. Je sentais qu'il avait quelque chose à dire, il parle très bien français, un français très élégant que j'aime beaucoup. Et je le voyais aussi quelquefois dans les cabarets, parce qu'on se bourrait la gueule, enfin on buvait beaucoup de bière le soir dans les cabarets. Et je voyais bien qu'il était toujours à côté, c'était un groupe de Tutsis qui refaisait le monde, et pour ne pas désespérer. Et lui était à l'écart, il n'était pas rejeté, mais il n'était pas non plus... interpellé. Quand il offrait une bière, on l'acceptait, mais on ne l'en offrait jamais. Il était gêné de quelque chose. J'ai su, parce que tout se sait dans un village, je savais qu'il avait une femme Tutsi, une épouse Tutsi. J'étais allé la voir. Et son épouse Tutsi, Edith, qui était assez joviale et de bonne humeur, toujours, refusait de me parler. Elle refusait de me parler. En fait, elle refusait de me parler parce que elle avait peur que ça puisse nuire à son mari à cause des soupçons que j'ai évoqués tout à l'heure, qu'on ne sait jamais avec un ou tout ce qu'il a vraiment fait et pas fait, d'une part, et d'autre part parce qu'il y avait cette idée, réalité du trou qui était dans leur jardin. En fait, ce trou, c'était une fausse d'aisance construite par le propriétaire de leur maison qui leur louait, qui avait été préparée pour être la future fosse septique. Et qui, pendant le génocide, a donc servi pour jeter des corps morts ou vivants. Beaucoup de gens vivants ont été jetés dedans, notamment la sœur
dévote,
qui a été jetée vivante avec son enfant dans ce trou. Et elle avait
son
peur.
Son enfant est mort et elle a réussi à en sortir.
À remonter. Elle est arrivée à remonter. Ses trois enfants sont morts à la
machette.
Le quatrième est mort en tombant dans le trou. Elle remonte et elle parle d'ailleurs beaucoup dans le livre. Et donc, Edith avait peur de l'évocation de ce trou. Parce que c'était à côté de chez eux, ça sentait fort. Les cris, ils entendaient les cris des mourants. Parce qu'on les jetait vivants ou à moitié tués, ils n'avaient pas le temps à perdre, les tueurs. Et donc, ils jetaient par-dessus des pierres ou des tessons de bouteilles, les gens en souffraient. Edith entendait ça, les enfants entendaient ça, tout le monde entendait ça. Elle ne voulait pas en parler. Et finalement, elle acceptait. Et donc, moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que, en fait, j'avais imaginé ce livre comme une série de petites nouvelles, histoires autour de ces personnes remarquables qui ont sauvé, qui sont restées vivantes ou qui sont mortes, dont trouver des gens pour parler à leur place, ce qui est un peu difficile. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais, je me suis aperçu que le sujet n'était plus tellement ces personnes, mais le silence et l'isolement dans lequel ils se trouvaient. Donc, ça a changé ma manière d'interroger, d'écrire, et puis arrivait ce trou qui d'abord est raconté par Edith et Eustache parce qu'ils habitent à côté, mais qui était aussi raconté par Valérie à côté, qui habite pas loin et qui a eu aussi un enfant jeté dedans, par d'autres personnes. Et je me suis dit, ça devient obsessionnel chez ces gens qui racontent, ça devient obsessionnel chez moi, donc il fait partie de l'histoire aussi. Et donc j'ai reconstruit le livre en mêlant cette histoire du trou, en enveloppant l'histoire des récits des sauveurs et de comment ils ont sauvé ou essayé de sauver, avec cette histoire de trou, pour peut-être expliquer d'une autre façon le silence, la gêne de tous ces gens qui ont vécu autour de cela.
Voici ce qu'en dit de ce trou dévote. Elle en est sortie. Le trou, on l'avait endurci en tassant au-dessus des pierres et du sable. La nouvelle de l'ouverture m'a trouvée anxieuse, pas craintive. Elle m'a inquiétée d'une façon que je ne peux expliquer. Je dirais qu'on m'a trouvé un comportement confus. Hésitation ? Aucune. Je suis venu assister aux fouilles des ossements en première ligne. Qu'importait la tristesse tremblante causée par ce moment ? Est-ce que je pouvais marcher en arrière pour éloigner le regard puisque j'avais vu mon enfant lancé dedans vivant ? Le sortir de ce trou dégoûtant, le laver et l'enterrer en cérémonie avec toutes mes gentillesses de maman, l'envelopper enfin de ma désolation, voilà ce que je voulais le plus, Jean Hatzfeld.
Voilà, ces dévotes qui assistent à l'ouverture du trou, c'est longtemps après, parce qu'elle veut retrouver quelque chose de cet enfant qui est mort dans la chute avec elle. C'est avec qu'elle a cherché jusque-là et que et elle dit, oui, c'est alors, dévote, c'est très, c'est délicat, dévote, parce que ça m'a été difficile de parler avec elle. D'ailleurs, ça s'est passé très longuement. Puisque
elle est allée à Kigali maintenant, elle vit à Kigali.
Elle vit à Kigali pour essayer d'oublier, elle n'oublie rien évidemment. Elle m'a posé 15 rendez-vous, 15 rencarts, où elle n'est pas venue, parce qu'elle hésitait, elle ne savait pas comment parler, elle tournait autour de quelque chose. Le jour où finalement je l'ai rencontrée pour la première fois, elle était vêtue avec une grande robe, comme quand on va à la messe, c'était assez surprenant. Elle a parlé, elle, voilà, elle fait partie de l'histoire à sa manière, dans la mesure où elle n'est pas directement impliquée avec un juste. Elle n'est pas impliquée, c'est pas comme Eustache ou c'est pas comme Silla, c'est pas comme ça, mais elle est.
Elle est le témoin aussi.
Elle est témoin et puis elle est dépositaire de ce trou parce qu'elle est tombée dedans et qu'elle en est sortie, qu'elle y a laissé un enfant et que on peut expliquer, on peut comprendre quand on l'entend sa méfiance à l'égard du Hutu, mais à l'égard de l'humain aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas demander à une personne comme elle ni d'accepter d'honorer personne, ni d'accepter de pardonner quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui est... ça ne sert à rien ce que vous faites, vous, de chercher plus longtemps, de chercher plus loin, de vouloir distinguer des gens, de vouloir... on est au-delà de ça, voilà. On est au-delà de ça, et ça me passionne parce que c'est très littéraire.
Parce que c'est littéraire et parce qu'aussi, et vous le dites souvent, Jean Hatzfeld, évidemment, on ne peut pas ne pas penser à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, même s'il ne faut pas faire le parallélisme constant, et effectivement à ces sorts de ceux qui ont survécu, ceux qui ont parlé, ceux qui ne veulent pas parler, etc. Et ça fait partie aussi de cette comparaison que l'on fait tout le temps.
Oui, et ça m'a permis quand même de relire, justement parce que je suis du Chambon-Sillignon, de relire un petit peu l'histoire des justes. Parce que
le pasteur Trocmé.
Voilà, le pasteur Trocmé, Daniel Trocmé, son fils, etc. Parce que je me suis aperçu à quel point ces gens-là, aussi courageux furent-ils, d'abord ont eu du temps pour s'exprimer, ils ont quand même eu des années pour créer des réseaux, et combien de temps ils ont eu le temps qu'il a fallu pour qu'ils existent aussi et qu'ils soient reconnus, parce que vous le soulignez tout à fait au début, à le lendemain de la guerre, les résistants sont immédiatement honorés, ils font un barrage sur les justes, et les justes ne trouvent leur place dans l'histoire que petit à petit et lentement. C'est-à-dire que même à cette époque-là, où il n'y avait pas de soupçons, il n'y avait pas deux communautés ethniques, etc., il y a eu des difficultés pour que ces gens-là puissent exister.
Merci pour ce très beau livre, Jean Hatzfeld, vous restez avec nous, le livre s'intitule Là où tout se tait, c'est paru chez Gallimard.